a retenu encore de nous, cette magnifique épître qui est une épître galate. Et merci à parce que aujourd'hui on continue, tu vas nous parler. Cette fois, c'est que tu vas nous parler à travers ton Saint-Esprit qui vient, Seigneur. Seigneur, vraiment touche les choses qui ne vont pas dans notre vie. Indiquez-nous, Seigneur, afin que nous puissions nous repentir et échanger, Seigneur, encore plus en vain à ton Fils. Seigneur, je te prie pour que tu donnes la sagesse, de la connaissance aussi, et afin que je puisse être à même de vivre ton message. Et je prie bien chacun de toutes les personnes ici présentes, afin que tu puisses être sensible à ce que tu veux nous dire. Et je te remercie en nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc le thème d'aujourd'hui, j'ai appelé ça être une nouvelle création. Et en fait, nous allons conclure l'Épître aux Galates. On a débuté cette série il y a maintenant 4 mois, c'était au mois de novembre. Et aujourd'hui, nous sommes là pour conclure. Donc, comme d'habitude, je vous invite à faire des lettres si vous pouvez, avec votre smartphone, avec vos stylos, un crayon, un papier, pour pouvoir retenir et appliquer ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, un petit rappel aussi pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de venir chez nous, ou même pour se mettre dans le bain, j'ai utilisé des termes. Donc, j'ai utilisé des termes judaïsants pour vous rappeler ce que ça veut dire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les judaïsants, ce sont des adversaires de Paul en Galatie. Les Galatiens qui vivent avec les Galates. Ils sont des Juifs qui se disent convertis et qui, en fait, incitent les croyants qui ne sont pas juifs à se faire circoncis. Ils ne sont probablement pas des vrais convertis, car Paul lui-même, dans Galates 2, verset 4, les appelle des faux frères. Donc, pour rappeler, c'est l'Épître aux Galates, c'est la première lettre que Paul a écrite juste avant le concile de Jérusalem. On considère que cette lettre a été écrite aux Galates du Sud. À la Galatie du Sud, donc là, c'est l'église des villes de Derbe, Istre, Icone, Antioche et Pisidie, où Paul a commencé son premier voyage missionnaire. On peut le voir ici. Ici, c'est la Galatie du Sud, de Icone, Istre, Derbe et Antioche. Donc, on a vu tout au long de cette épître qu'il y avait en fait 6 chapitres la fois. Les deux fois, la première partie, ce sont les deux premiers chapitres qui parlent de Paul qui défend son autorité d'apôtre, après avoir été remis en question par les judaïsants, je suis apôtre de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui m'a nommé apôtre, et je suis là pour prêcher la justification. Ensuite, il dit qu'est-ce que c'est la justification? Donc, quels sont les principes de cette justification? Nous sommes sauvés et déclarés justes seulement au travers de la foi. Et enfin, il montre que la justification par la foi, bien, ça a des conséquences, ça entraîne la liberté des chrétiens, qui eux-mêmes étaient esclaves sous la loi mosaïque, ont été libérés de leur esclavage, ont été libérés du péché. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans la partie 5 et la partie 6. Et aujourd'hui, nous sommes là pour conclure cette lettre, non seulement cette partie 6, mais aussi là pour conclure cette lettre aux Galates. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, il y avait Ron Quach qui était là, qui était venu, qui avait partagé des exemples très pratiques d'application. Donc, il avait notamment parler du fait de reprendre avec douceur quand quelqu'un pêche, de porter les fardeaux les uns des autres, de ne pas nous comparer aux autres, de soutenir financièrement et matériellement les anciens de l'Église et de semer pour l'Esprit, parce que quand on sème, on sait qu'on va récolter en tout cas l'Esprit. Donc le passage d'aujourd'hui commence avec verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Quand il dit ça, en fait, l'apôtre Paul, il est en train de conclure. Il conclut cette lettre. Et si bien qu'il a écrit cette lettre avec sa propre écriture, et d'habitude, en fait, Paul, souvent, il fait écrire cette lettre par des compagnons qui signent à la fin en disant voilà, c'est moi Paul. Sauf que là, en fait, il a écrit une grosse écriture, un petit verre qu'il a écrit de manière différente, et qu'il a écrit lui-même. En fait, la situation en Galatie était tellement urgente que Paul avait vraiment rencontré son intérêt, son inquiétude, sa volonté de veiller sur eux à travers ça, le fait qu'il écrit dans les canons. Et c'est aussi pour montrer que ce n'est pas écrit par quelqu'un d'autre, mais que c'est vraiment écrit. Ensuite, il oppose, on va voir, la folie, c'est-à-dire la folie de la circoncision, verset 12 au verset 13, à la folie de la croix, verset 14 au verset 15. Donc, verset 12 au verset 13, tous ceux qui veulent se rendre agréable sont dans la chair que contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se purifier de votre chair. Alors, cette fameuse circoncision, on en a beaucoup parlé dans le précédent message. En fait, les judaïsants, ils veulent encourager les chrétiens qui étaient non-juifs à se faire circoncire. En fait, ils considéraient que par là, le salut par la foi uniquement en Christ ne suffit pas, donc il faut remettre l'obéissance à la loi de Moïse. Et en fait, Paul a démontré dans le chapitre précédent que pour être sauvé par la loi, il faudrait obéir à toute la loi, et ce qui est impossible. Le seul moyen d'être sauvé, ce qu'il montre, c'est que c'est la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le salut par la foi, alors que le bon rappel, c'est ce qu'on appelle la justification par la foi. Et vous connaissez bien Jean 3,16 qui dit que Dieu le Père aime tellement le monde qu'il a donné son Fils Jésus, pour lequel le Père qui agit, il y a le Fils qui agit, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à le connaître lui, le seul vrai Dieu, comme dit Jean 17, verset 3. Une fois convertis, nous avons donc la justification et la sanctification. Petit rappel, à la fois, Jésus a donné sa vie pour nous. Ce qui est par conséquence, d'un côté, la justification est un acte ponctuel, c'est, ça y est, vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes sauvé une fois pour toutes, on ne revient pas dessus, ça s'appelle la justification. C'est une fois pour toutes. Mais d'un autre côté, vous avez un processus qui est progressif, qui s'appelle la sanctification, et bon, la sanctification, c'est le fait d'être de plus en plus mis à part, de plus en plus saint, de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Et ça, ça dure jusqu'à la fin de notre vie. Et nous sommes donc appelés à marcher par l'esprit, parce que, en fait, au moment où nous sommes convertis, nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous avons reçu ce Saint-Esprit qui nous permet d'être mis à part pour le Seigneur. Donc, vous voyez, il y a le Père qui aime tellement le monde, qui donne le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit agit en nous pour nous convaincre de péché, et vient vivre en nous, afin que nous soyons scellés du Saint-Esprit, et que nous puissions marcher par l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, cette sanctification? J'ai résumé ça sous forme de schéma. En fait, nous devons combattre. Galates 5, 16, 17, marcher par l'esprit, et n'accomplissez pas les œuvres de la chair. Et Romains 7 nous dit que le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. C'est-à-dire qu'il y a un combat, malgré le fait qu'on est déjà converti. En fait, avant la conversion, donc c'est rouge, nous étions comme état dans la chair. Donc c'était logique avant la conversion de faire les œuvres de la chair. Mais après la conversion, nous sommes dans l'esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et nous avons cette possibilité de soit faire les œuvres de l'esprit, ou soit de faire les œuvres du vieil homme, les œuvres de la chair. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Et en fait, au verset 12, Paul insiste sur le but des judaïsants. En fait, les judaïsants, ils encourageaient la circoncision pour dans quel but? En fait, c'était pour ne pas être persécuté pour la croix de Jésus-Christ. C'est une façon de dire, je suis chrétien, mais regardez, je suis surtout soumis à la loi de Moïse. Aucune raison de me distinguer des juifs qui ne sont pas chrétiens. Aucune raison de me persécuter, parce que finalement je suis un peu comme les autres juifs, auxquels je prends Jésus, mais je vais circoncire comme tout le monde. Bien sûr, je vais respecter la loi. Et Paul complète au verset 13 en précisant que, en fait, les judaïsants eux-mêmes étaient des hypocrites. Ils n'observaient eux-mêmes pas la loi de Moïse. Ça me rappelle ce que Jésus lui-même disait aux pharisiens, hypocrites. Grâce à Dieu. Dites de faire ça, mais vous ne le faites vous-même pas. Ils veulent se glorifier dans la chair des chrétiens dans le juif. En d'autres termes, ils souhaitent montrer, puisqu'ils disent qu'ils veulent se glorifier dans la chair des autres, ils veulent montrer qu'ils ont réussi à convertir beaucoup de chrétiens à leur cause. Et du coup, que les chrétiens, en fait, ils veulent être comme les juifs, c'est-à-dire être soumis à la loi de Dieu pour être sauvés. Au verset 14, Paul montre son point de vue, c'est complètement différent. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de glorifier d'autre chose que de la joie de la chasse énergétique. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc les judaïsants, ils veulent se glorifier dans la chair des Galates, mais Paul, il se glorifie uniquement de la croix du Seigneur Jésus-Christ par opposition. Et il affirme alors extrêmement que seul le salut par la foi en Jésus-Christ nous sauve. Nous sommes acceptés par Dieu seulement grâce à la croix. Et Paul ajoute que par cette croix, et c'est peut-être un peu compliqué ce passage, le monde a été crucifié pour Paul, tout comme Paul a été crucifié pour le monde. En tant que théologien, je pouvez pas raffraser ça de la manière suivante. Le monde est considéré comme mort, voilà notre peuple, tout comme peuple lui-même est considéré mort du point de vue du monde. Ou, de manière, le monde en fait n'a plus d'intérêt pour peuple, tout comme peuple lui-même n'a plus d'intérêt pour le monde. Il mène une vie qui n'a aucun sens, le sens du monde. Il n'y a plus de suffisance qu'une folie pour le monde. Et du coup, ils disent, ah non, mais il est crucifié, il n'a plus rien à voir avec nous. J'ai l'impression que Paul considère que le monde est une crucifié, qu'ils sont complètement séparés. Ce qu'on appelle le monde, c'est ce qui est opposé à ce qu'ils appellent la nouvelle création. Ce qui est opposé au règne spirituel de Jésus-Christ en nous et autour de nous. C'est ce qu'ils appellent. C'est ce qu'on appelle l'objet unique des pensées, des désirs, des affections, des espérances, des efforts de l'homme qui est bon pour la racine. Et tout ce qui est lié à l'homme qui est bon pour la racine. Donc, Paul, en fait, il affirme sa mort, dans la mort de Christ. Il explique qu'il s'identifie à Jésus-Christ. J'ai été crucifié pour le monde, tout comme Jésus-Christ a été crucifié pour le monde. Au verset 15, Paul. Il rappelle que ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. En fait, il le disait déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Galates 5, verset 6, « Car Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Au contraire, Paul lui rappelle que le principe, la chose la plus importante, c'est d'être une nouvelle création. Qu'est-ce que c'est être une nouvelle création? En fait, c'est être né de nouveau, c'est être converti, c'est être sauvé. Paul en parle déjà dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez ici. Et Jésus lui aussi en parle dans Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, on va voir un peu des applications. On a vu énormément de choses dans la lettre de Galates, mais les questions que je vais vous poser, je pense, sont les plus déterminantes et les plus essentielles par rapport à votre foi. On a eu beaucoup de choses en termes de doctrine, justification, etc. Mais après, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette doctrine? Qu'est-ce qu'on fait avec cette orthodoxie? Est-ce qu'on la met en pratique, ce qu'on appelle l'orthopraxie, ou est-ce qu'on le garde et on fait comme l'homme qui se regarde dans un miroir dans Jacques et finalement repart et oublie ce qu'il a vu? En fait, cette question, ça vous servira surtout de baromètre et ça va permettre de mesurer où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec Dieu. Ça va permettre de mesurer votre maturité spirituelle. Ça commence au niveau 0%, c'est-à-dire pas de relation avec Dieu, car pas de conversion, jusqu'au niveau 100%, la relation parfaite avec Dieu, complètement à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, bien sûr, aucun chrétien ne sera 100%, mais nous devons tendre vers ce but, ce qu'on appelle le principe de la sanctification. Mais alors, qui parmi nous est assuré qu'il est né de nouveau, qu'il est une nouvelle création? Est-ce que tu t'es converti? Si oui, est-ce que tu portes des fruits qui sont visibles? Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu as les caractéristiques du fruit de l'Esprit? Est-ce que tu as l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la bonté, que ce soit combattu le bon combat, marches-tu par l'Esprit? Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Où est-ce que tu marches? Où est-ce que tu marches encore dans la chair? Est-ce que tu te complais dans les péchés sans les combattre? Est-ce que tu te sens plus chrétien? Parce que tu fais énormément d'activités chrétiennes. Comme je l'ai rappelé dans les prédications. Penses-tu que tu es plus agréable à Dieu, que tu es sauvé grâce à ce que tu fais pour lui? Attention, parce que si c'est le cas, tu agis comme le faisait les Galates. Ils avaient ajouté au salut par la foi, le salut par la loi. Alors, avant de décider de répondre à ces questions, j'avais fait. Vous vous rappelez, j'avais déjà ce schéma. En fait, le principe, c'est d'opposer la circoncision à la croix, c'est-à-dire que l'homme juif, est-ce qu'il est justifié par les œuvres de la loi? C'est bien sûr non. Ensuite, est-ce que la foi en Jésus-Christ, plus les œuvres de la loi qu'on rajoute à la foi, est-ce qu'elle sauve? Bien sûr que non. Et en fait, ce qui sauve tout homme, qu'il soit juif ou non-juif, c'est la foi en Jésus-Christ, cette foi seule qui le justifie. Voilà, c'était juste un rappel. Donc, pour revenir, voici des questions que je vous propose de vous mettre maintenant par deux, que vous puissiez discuter pendant 5 minutes. Où est-ce que vous en allez par rapport à ces questions? Est-ce que vous êtes plutôt. Où est-ce que vous en êtes par rapport au plus? Est-ce que vous en êtes par rapport au moment? Et après, je voudrais que vous ayez partagé de prier ensemble. C'est la nouvelle d'Israël. Dans cette nouvelle Israël, bien sûr, il y a également les Juifs qui se convertissent à la foi en Jésus. Et ces Juifs sont bien sûr sauvés. Ce ne sont pas tous les Juifs, mais les Juifs ou les non-Juifs qui croient en Jésus-Christ sont justifiés, sont sauvés, et c'est ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Verset 17. Après cette conquête, Paul espère que les Galates reviendront au salut par la foi seule et qu'ils ne l'attristeront plus, qu'ils ne lui feront plus de peine, qu'ils ne continuent pas de remettre en cause son autorité d'apôtre. En effet, Paul lui rappelle qu'en tant qu'apôtre, il porte sur son corps la marque de la crucifixion de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à l'image de Jésus, il a souffert. Il a notamment souffert du fait qu'il avait foi. Et enfin, au verset 18, Paul conclut avec ces mots. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Paul conclut sa lettre en espérant que la grâce de Dieu, c'est-à-dire le don de ce qui n'est pas mérité, soit non pas avec la chair de Galate, mais avec l'esprit de Galate. Pourquoi je parlais de chair? Parce qu'il avait combattu la loi de la chair, l'obéissance à la loi de Moïse qui, soi-disant, pouvait sauver en plus de la foi en Jésus-Christ. Et en fait, non, ce n'est pas cette chair, mais c'est l'esprit des Galates. C'est-à-dire que la grâce de Jésus n'est pas. Il ne dit pas que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre chair, mais il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, avec l'Esprit Saint que Dieu a mis dans le cœur des Galates. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour être aux Galates. Merci parce que tu as utilisé Paul pour attraper les Galates dans leur foi. Pour montrer que c'était des fausses croyances, des croyances déformées au sujet de Jésus. Et merci parce que cela nous concerne encore aujourd'hui. Et Seigneur, ça concerne notamment ceux d'entre nous qui ne sont pas encore sauvés, ça concerne ceux d'entre nous qui sont sauvés, mais qui n'ont pas compris les choses essentielles, et qui se focalisent sur les choses secondaires. Et ça concerne aussi ceux qui sont sauvés, et à qui il manque cette motivation pour aller encore plus loin, et plus loin dans notre relation avec Dieu. Je te prie, Saint-Esprit, Seigneur. Je te prie, Saint-Esprit, pour que tu viennes, nous convaincre de péché, que tu puisses nous remplir de toi, que tu produises en nous le vouloir et le faire selon ton bon désir. Ravive notre amour, Seigneur Jésus, ravive cette flamme en nous et chantons ensemble en grâce de la vie.